fait de définir l'homme comme bipède. Je reviendrai. Parce que bipède, ça veut dire quoi, bipède? Ça veut dire qu'il y a deux pieds, mais ça ne dit rien sur le pas. Si je dis c'est un bipède, n'est-ce pas, ça veut dire qu'il y a deux pieds, n'est-ce pas, mais ces pieds peuvent très bien être immobiles. Et c'est tout le problème que j'avais soulevé la dernière fois de la station debout. Quand on définit l'homme, et je crois que là, il y a quelque chose de très intéressant, si vous voulez, quand on définit l'homme uniquement par la station debout, on commet un geste philosophique énorme. Et on manque, certainement, quelque chose dans l'homme. Alors, on commet un acte philosophique qui est métaphysique. Parce que si je dis l'homme se définit par la station debout, je le définis par la station, c'est-à-dire par la stature, c'est-à-dire par le statique, n'est-ce pas, du tenir debout. Et le statique du tenir debout, eh bien, c'est la philosophie de Platon. Je vais y revenir aujourd'hui, là. Et c'est jusqu'à la philosophie de Heidegger. Car chez Heidegger, il y a un jeu extraordinaire chez Heidegger sur le mot stellen, n'est-ce pas, Gestalt, Gestell. N'est-ce pas. Et Heidegger le comprend soit au sens péjoratif, soit au sens positif. Qu'est-ce que c'est finalement que l'œuvre d'art, n'est-ce pas? C'est une Gestalt, n'est-ce pas, c'est une installation. Et si vous voulez, avant de commencer comme je voulais commencer, je finis sur Heidegger, parce que c'est très intéressant, n'est-ce pas? Et je crois qu'on peut, comme cela, saisir quelque chose, un petit détail, mais qui est totalement décisif pour comprendre la politique de Heidegger, pour comprendre, si vous voulez, la métaphysique de Heidegger. N'est-ce pas? Car je dirais bien que, contrairement à ce qu'il dit, n'est-ce pas, ce n'est pas Nietzsche le dernier métaphysicien, c'est lui le dernier métaphysicien. Et justement parce que il en reste à une idée statique, une idée de la Gestalt comme figure, si vous voulez, de l'installation de la vérité. Que ce soit la vérité humaine, que ce soit la vérité de l'art, que ce soit la vérité politique, hein, la vérité politique. Et il y a une chose très étonnante, c'est que le fameux discours de rectorat, hein, de 1933, qui est lui-même dit la Dummheit, la bêtise absolue, c'est plus qu'une bêtise, n'est-ce pas ? C'est une monstruosité, n'est-ce pas ? Mais c'est très intéressant de lire ce livre parce que c'est un livre, si vous voulez, qui repose sur deux ou trois mots et qui repose, c'est pas, sur la Stellung, Darstellung, et sur un autre mot, la Selbstbehauptung. La Selbstbehauptung. Et que veut dire Selbstbehauptung ? Dans le mot Selbstbehauptung, vous avez Haupt, qui veut dire tête. Et la Selbstbehauptung, c'est l'auto-affirmation, n'est-ce pas ? Et c'est le titre, n'est-ce pas ? Die Selbstbehauptung der Deutschen Universität, l'auto-affirmation de l'université allemande. Et cette auto-affirmation de l'université allemande, c'est l'auto-affirmation de la vérité en tant qu'elle est installée, n'est-ce pas ? Et le contexte de cette définition politique de l'installation de la vérité, eh bien, c'est une idée absolument conservatrice, bien évidemment, de la politique, hein, et une idée platonicienne de la politique. C'est pas ? On se rend compte que, dans ce discours de rectorat, la société est partagée en trois classes, comme chez Platon. C'est pas ? Vous avez les penseurs, c'est-à-dire lui, Heidegger, et les hauts dignitaires nazis, Hitler. Vous avez les guerriers et vous avez les ouvriers. pas ? Et donc, il réactualise, si vous voulez, le platonisme en tant que philosophie de l'installation de la vérité. N'est-ce pas ? Et la preuve de cette installation, c'est que à la fin de ce discours, qui est terrifiant, n'est-ce pas, qui est à lire parce qu'il est terrifiant, dans sa manière de définir l'engagement, qui est à la fois, si vous voulez, un engagement actif, n'est-ce pas, qui suppose action pratique, mais qui en même temps suppose immobilité, n'est-ce pas ? Il y a les deux choses à la fois, si vous voulez, il y a à la fois une auto-affirmation de soi, et en même temps, il y a le projet, n'est-ce pas, de l'Entschlossenheit, c'est-à-dire la décision résolue, n'est-ce pas ? Ça remonte, si vous voulez, à Hegel, cette idée, n'est-ce pas ? La vérité est sujet, la vérité est substance et en même temps sujet, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, la vérité est là. Alors, en termes politiques, l'Allemagne est là, avec son passé, avec sa terre, vous voyez, avec tous les thèmes, hein, les fameux thèmes réactionnaires qu'on retrouve en France, etc. C'est pas ? Il y a la terre, il y a les morts, il y a la tradition, il y a la mémoire, et vous avez le sujet, c'est-à-dire la volonté, n'est-ce pas ? La volonté qui s'affirme, qui est à la fois est hors d'elle-même, puisqu'elle s'affirme en avant d'elle-même, mais en même temps, elle est en elle-même. Et c'est là qu'on peut dire, en un certain sens, que Heidegger ne marche pas. Ou, si vous voulez, marche pas. N'est-ce pas ? Il n'y a pas de pas chez Heidegger. Il y a bien un projet, n'est-ce pas ? Mais il n'y a pas de pas, au sens où le pas, qu'est-ce que c'est que le pas ? On va voir la conséquence politique. Je dis tout de suite, je lâche tout de suite, si vous voulez, les vérités simples, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est que le pas ? Déjà chez les Grecs, c'est tout simplement la liberté. Je vous donnerai tout à l'heure une référence incroyable, n'est-ce pas, qui permet de comprendre, n'est-ce pas, que marcher, n'est-ce pas, faire un pas, c'est être libre. À condition que le pas soit défini comme pas dans tous les sens. C'est-à-dire aller où l'on veut. N'est-ce pas ? Aller où l'on veut. Hein ? Bon. Alors, après cette excursion dans Heidegger, n'est-ce pas, je voudrais... Alors, là, simplement encore, je rajoute, j'anticipe sur ce que je voulais dire à propos d'Heidegger. N'est-ce pas ? Je voulais en parler après Platon. Vous savez que... Je en parle tout de suite. Vous savez que Heidegger a écrit un texte qui a beaucoup de réputation, et qui s'appelle « Ursprung des Kunstwerks », c'est-à-dire « L'origine de l'œuvre d'art ». Et alors, ce texte, qui a été publié dans « Les chemins qui ne mènent nulle part », des Holzwege, tu vois, ce texte définit l'art. Et la définition est tautologique, comme aurait dit le général de Gaulle, « La France, c'est la France ». Eh bien, Heidegger dit « L'art, c'est l'art ». Et pour confirmer cette tautologie, cette auto-affirmation, hein, Selbstbehauptung, du reste, le terme est utilisé dans l'origine de l'œuvre d'art pour définir l'œuvre d'art. C'est pas auto-affirmation de l'œuvre d'art. C'est-à-dire, puisque Heidegger s'intéresse à l'étymologie, n'est-ce pas, et il faut faire très attention à son langage, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire coup de tête. Qu'est-ce que c'est que l'œuvre d'art ? C'est le coup de tête qui affirme, qui s'affirme lui-même, n'est-ce pas ? Coup de tête dans tous les sens du terme, n'est-ce pas ? Et on voit très bien, si vous voulez, sur des choses grossières et terribles, n'est-ce pas ? Le coup de tête tout simplement de Hitler, n'est-ce pas ? Le coup de tête du militaire, le coup de tête, hein, des militaires... brésilien, si ça continue, n'est-ce pas ? Hein ? La situation est dramatique, hein, au Brésil. Hein ? Et donc, ce fameux coup de tête, je ne veux voir qu'une tête. Alors, tout ça, vous me direz, c'est empirique, c'est le défi limitaire, etc. Mais, sur le plan philosophique, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire, si vous voulez, ça remonte à Platon. C'est-à-dire, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que le platonisme ? Je vais revenir au platonisme, là. C'est un... bien, beau, vrai. C'est-à-dire, c'est toon, c'est L'un, c'est hein, le un, qui est en même temps le bien, qui est en même temps l'être, n'est-ce pas, et qui est en même temps le vrai. C'est le principe. Et vous savez que principe, princeps, c'est aussi bien le premier politique, n'est-ce pas, le tyran politique, n'est-ce pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une philosophie de l'un, n'est-ce pas, comme celle de Platon. Mais Heidegger aussi, en un sens, c'est une philosophie, comme n'a cessé de le répéter Derrida, une philosophie du rassemblement, n'est-ce pas. Gestalt. Que veut dire Gestalt? La figure, n'est-ce pas. La figure qui permet de parler de l'art, la figure artistique, n'est-ce pas. Bien, c'est ce qui se tient en rassemblant. Ge, le ge en allemand, indique Gesammlung, le rassemblement, n'est-ce pas. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art? Une œuvre d'art, c'est ce qui se tient en rassemblant. Et alors, deux exemples sont donnés par Heidegger dans Ursprung des Kunstwerks, l'origine de l'œuvre d'art. Vous voyez, il y a origine, Ursprung, une origine. Hein, il y a un un, c'est l'être. C'est ça? C'est l'être. C'est l'être qui surgit. Alors, bien évidemment, Heidegger critique Platon, dénonce chez Platon l'idéalisme, l'eidos, le fait d'avoir fixé la vérité dans une idée. Mais c'est pour remplacer cette idée platonicienne par quoi? Par l'ursprung, n'est-ce pas, le surgissement unitaire, fondamental, l'urgrund de l'être. N'est-ce pas. Et cet urgrund, bien évidemment, il passe par la terre. Et on voit bien les connotations politiques là derrière. La nation, hein, la patrie, hein, le Heimat, la délimitation d'un lieu, la délimitation d'un un site. Dans l'introduction à la métaphysique, Heidegger a ses curieuses étymologies à propos de polis. Vous savez, le mot grec polis qui veut dire la cité. Heidegger dit le mot polis vient d'un mot latin, d'un mot grec qui veut dire pôle, c'est-à-dire axe. C'est dingue, c'est fou, n'est-ce pas? Polis viendrait de pôle, axe, n'est-ce pas? C'est-à-dire statue, n'est-ce pas? Style, stylie, n'est-ce pas? Dans péristyle, n'est-ce pas? C'est-à-dire bipède qui ne bouge pas, quoi, n'est-ce pas? Hein, qu'est-ce que c'est que, hein, qu'est-ce que c'est que un homme qui se définit par la station debout, n'est-ce pas? Uniquement la station debout, n'est-ce pas? Et alors, je continue, n'est-ce pas, là-dessus, sur Heidegger. Ces petits détails, n'est-ce pas, sur la définition de la polis, de la cité, n'est-ce pas, la définition de l'œuvre d'art comme Gestalt, la définition d'autres définitions, n'est-ce pas, et tout cela, alors particulièrement l'œuvre d'art est illustré dans Ursprung des Kunstwerks par deux exemples, n'est-ce pas. Il donne deux exemples artistiques. Et le rapprochement, déjà, le choix de ces deux exemples est tout à fait intéressant, je dis le choix, avant même le contenu, si vous voulez, le choix. C'est l'exemple d'un temple grec et l'exemple, alors là, on dira justement que ce sont deux exemples qui sont absolument, apparemment, antinomiques, n'est-ce pas ? L'exemple des chaussures de Van Gogh. Alors vous me direz, vous voyez bien qu'il parle du pas, puisqu'il parle des chaussures, mais justement, ce qu'il s'agit de comprendre, et ça c'est absolument incroyable, c'est que le choix de la chaussure à côté du choix du temple signifie dans l'esprit de Heidegger qu'une chaussure est comme un temple, qu'une chaussure sur un tableau, c'est comme un temple grec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel est l'intérêt de l'exemple du temple grec. Alors, le temple grec, ben, il est posé là. C'est statique. C'est imposé. C'est installé. Le temple est installé. Alors, bien évidemment, Heidegger dira, c'est le combat dans le temple entre la terre, n'est-ce pas, et le monde qui s'exprime dans le temple. Le combat, n'est-ce pas, entre la... Mais c'est un combat, je dirais, vertical. Et je crois que là, si vous voulez, le détail est très très important. C'est un combat vertical qui se confond avec l'essence de la pensée chez Heidegger, qui est la Gedank, c'est-à-dire le souvenir. Vous savez que dans Qu'appelle-t-on pensée, Heidegger insiste bien sur le fait que la pensée est souvenir. Qu'est-ce que c'est que penser ? C'est forcément, si vous voulez, ben quoi ? C'est forcément l'anamnésis au sens platonicien transposé, n'est-ce pas ? Avec un langage nouveau, etc. Mais c'est l'anamnésis, n'est-ce pas ? Vous savez, cette fameuse anamnésis qui fait que quand on pose une question, on va voir tout à l'heure, à un petit esclave, n'est-ce pas ? Un petit problème de géométrie, il répond parce qu'il se ressouvient de la vérité. Parce que la vérité est déjà là. Elle est déjà dans la mémoire, non pas la mémoire simplement du païs, du petit esclave, mais dans la mémoire absolue de l'être. N'est-ce pas ? C'est le fond de l'être. Parce que le vrai, le bien, le beau, et l'un est déjà là avant même que l'homme apparaisse. N'est-ce pas ? Il y a une antériorité ontologique, n'est-ce pas, de l'absolu. Or, je pense, et on retrouve ça bien évidemment chez Hegel, n'est-ce pas, cette idée d'une antériorité qui fait qu'à la fin, on retrouve le commencement. N'est-ce pas, cette idée d'une circularité de la vérité. Et chez Heidegger, toute affirmation du Dasein, n'est-ce pas, est en fait affirmation à l'intérieur de l'auto-affirmation de l'être. N'est-ce pas ? Le Dasein comme singularité qui s'affirme, n'est-ce pas, s'affirme dans la mesure où il affirme l'être en lui, n'est-ce pas, et la puissance de l'être en lui. Il y a chez Heidegger les reliquats les plus lourds, les plus pesants, n'est-ce pas, de la métaphysique occidentale, n'est-ce pas, sous des apparences de nouveauté et sous des apparences de poésie, n'est-ce pas, et d'invention poétique. Enfin, je crois que là, on peut difficilement échapper à cette lecture, n'est-ce pas. Si je reviens donc à l'exemple des chaussures, alors en quoi les chaussures intéressent Heidegger? Vous savez qu'il y a un très gros texte difficile, long, intéressant, de Derrida sur les chaussures de Van Gogh et Heidegger dans un livre qui s'appelle La vérité en peinture et dans un chapitre qui s'appelle Restitution. Il y a une centaine de pages sur cet exemple de Heidegger. Bon. Mais là, si nous revenons aux chaussures de Van Gogh, qu'est-ce qui intéresse Heidegger dans les chaussures de Van Gogh? Et ça va nous apprendre quelque chose, si vous voulez, à la manière dont Platon définit la vérité. Les chaussures... D'abord, les chaussures, ce n'est pas le pied. Hein, c'est idiot ce que je dis, mais ça va de soi. C'est pas... Une paire de chaussures, ce n'est pas deux pieds. C'est ça. Et des chaussures, si vous voulez, là, ce sont des chaussures de paysans, de paysannes. Ils présupposent, n'est-ce pas, et Heidegger et Derrida disent, mais où a-t-il trouvé que c'était des chaussures de paysannes? Le sexe n'est pas indiqué, si vous voulez. Il y a déjà là des arbitraires, si vous voulez, qui sont... C'est très intéressant, ces arbitraires, n'est-ce pas, bon. Mais il a quand même choisi, c'est lui qui a choisi cet exemple. Il aurait pu prendre un autre exemple d'œuvre d'art. Il a choisi cet exemple. Et je répète, il l'a choisi en parallèle avec le temple grec. Ça veut donc dire que la chaussure de Van Gogh a quelque chose d'un temple grec, ou quelque chose à voir avec le temple grec, c'est-à-dire avec l'installation de la vérité. Et alors, où apparaît l'installation de la vérité dans la chaussure? Eh bien, c'est que la chaussure, pour Heidegger, en tant qu'elle est chaussure de la paysanne, et en tant qu'elle est posée sur la terre, elle est soudée à la terre. Elle est enfoncée dans la terre. Et Heidegger utilise un terme allemand, Verlässlichkeit, je crois, qui veut dire, si vous voulez, c'est un terme à la fois moral et physique, ça veut dire que la chaussure a confiance dans la terre, si vous voulez. Elle prend sa foi dans la terre, n'est-ce pas? Elle est fidèle à la terre, elle est fidèle à la terre. Mais le terme signifie aussi qu'elle est assolée, si vous voulez. Hein? C'est-à-dire que c'est sa semelle qui compte, en tant que la semelle est dans la terre, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette chose absurde, que la chaussure du paysan ou de la paysanne se dit, et alors elle parle cette chaussure justement, Heidegger dit, Zacht, elle parle la chaussure, n'est-ce pas? Et elle parle, qu'est-ce qu'elle dit la chaussure? Elle dit la terre. Et comment dit-elle la terre? Mais elle dit la terre par le trou vide de la chaussure. Le noir. Vous savez, si vous avez en tête le tableau de Van Gogh, vous avez deux trous noirs, n'est-ce pas? Comme deux yeux noirs, crevés, n'est-ce pas? Et pour Heidegger, la chaussure parle par le trou noir de son vide, et dans ce vide, on peut découvrir l'être de l'art, n'est-ce pas? La vérité originaire de l'art comme gestalt. C'est-à-dire, ce qui se tient dans le vide de la chaussure, c'est l'origine de l'œuvre d'art. C'est la vérité originaire de l'œuvre d'art, c'est-à-dire l'art comme lui-même. C'est-à-dire la tautologie de l'art. N'est-ce pas? Tautopodie, je dirais. La tautopodie de l'art. Nous sommes dans une ontologie, n'est-ce pas? Qui utilise le pied, mais le pied au sens du piétement, non pas le pied en tant qu'il marche, en tant qu'il danse. Et avec beaucoup de précision et d'insistance, Heidegger insiste pour dire que ce n'est pas la danse que dit la chaussure, ce n'est pas la danse de la paysanne, ce n'est pas sa promenade. Il le dit explicitement. Et il dit tout ça, c'est de l'empirique. Tout ça, c'est de l'usage. N'est-ce pas? Ça n'est pas ça qui est la vérité de l'œuvre d'art. L'œuvre d'art ne renvoie pas à ce qui relève de l'usage, à ce qui relève, si vous voulez, de la vie concrète. N'est-ce pas? L'œuvre d'art renvoie à son fondement, son Urgrund, qui fait que pour une paire de chaussures, ce fondement, c'est la terre. Et la terre, c'est la stabilité, c'est ce qui ne bouge pas. On en arrive à un paradoxe absolu qui est à la limite, si vous voulez, de la gaudriole, n'est-ce pas? C'est, vous savez, ce comique qui était extraordinaire, comment s'appelait-il? Vous savez qu'il faisait des jeux de mots. Pardon? De Vos. C'est du De Vos, n'est-ce pas? Alors, c'est absolument... ma formule, évidemment, est impie, n'est-ce pas? Mais je crois qu'il ne faut, il faut pas tergiverser avec Heidegger, n'est-ce pas? Il faut voir les détails, et les détails comptent, n'est-ce pas? Je crois que ce petit détail-là dit beaucoup sur ce qu'est Heidegger, n'est-ce pas? Un petit détail qui entraîne toute sa philosophie. Bien, après cet excursus, si vous voulez, je vais revenir. Alors, la semaine dernière, pour les gens qui n'étaient pas là, hein, je dis un peu ce que, très rapidement, ce que j'ai fait. J'ai exposé, si vous voulez, si je n'ai malheureusement qu'un exemplaire, mais je pourrai le photocopier et le redistribuer. Si vous revenez à l'occasion, je vous redistribuerai ces citations. J'ai une page, si vous voulez, où il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, une quinzaine de citations autour du pied, n'est-ce pas? Et à partir de ces citations très courtes, hein, des petites citations très courtes, j'ai présenté ces citations très courtes comme des détails, c'est pas, des petits détails, et comme des récits, des petits récits, n'est-ce pas? Et j'ai essayé d'expliquer que toutes ces petites citations sur le pied, comme récits, comme petits récits, une citation de Diogène, une citation de Victor Hugo, etc., toutes ces petites citations, à travers les siècles, à travers le temps et à travers l'espace, constituent ce que j'appelle une page de pas perdu. C'est-à-dire un ensemble, n'est-ce pas ? Un ensemble apparemment fermé, mais surtout pas fermé, de pas. Et je voulais suggérer que quand il s'agit de parler du pas, forcément, on parle d'une infinité de pas. Il n'y a pas un pas. Il y a une infinité de pas, non pas simplement de pas singuliers, d'une personne singulière, d'un sujet singulier, mais le pas ne se comprend qu'au milieu d'autres pas, d'une infinité d'autres pas. Et par rapport à la dogmatique heideggerienne, on voit tout de suite qu'une philosophie du pas, une ontopodie, n'est-ce pas, ou une podologie, n'est pas une métaphysique de l'un. C'est forcément une physique, n'est-ce pas, du plusieurs. Ça grouille les pas. Ça grouille, et surtout, ça grouille dans tous les sens. C'est pas, je dis bien dans tous les sens. Si j'avais, c'est pas, au sens, si vous voulez, de la vie du pas, qu'est-ce que c'est qu'une philosophie du pas qui tient compte de la vie du pas? Eh bien, c'est forcément un pluralisme, hein, qui présuppose la multiplicité des pas d'une singularité au milieu d'autres singularités, dans un lieu, n'est-ce pas, où les pas ne sont pas organisés par un principe unitaire, il n'y a donc pas d'organisation du pas et des pas. En un certain sens, il n'y a pas de logique du pas, il n'y a pas non plus de dialectique du pas. N'est-ce pas ? Bien que, et c'est une chose très, très curieuse, mais comme le dit Michel de Certeau, dont je vais vous parler tout à l'heure, quand il s'agit du pas et de la marche, ben, il faut tout de suite penser à la rhétorique et au langage, et au jeu de langage et à la différence entre le langage et la parole. C'est-à-dire entre le langage comme système, c'est pas, de signes, diacritiques, c'est pas, dont s'occupent les linguistes, et puis la parole en tant qu'elle est vivante. C'est pas la parole vive, en tant qu'elle est toujours, si vous voulez, non seulement la parole d'un homme qui parle, mais ce qui caractérise la parole vivante, c'est qu'elle parle au milieu d'autres paroles, au milieu d'autres sujets, même s'il se taise, il parle. C'est pas, et au milieu d'un monde, n'est-ce pas, qui déploie un espace, n'est-ce pas, qui se déploie en espace ouvert, n'est-ce pas. C'est ça, le jeu de la parole. Je vous citerai des textes de Certeau qui sont tout à fait intéressants là-dessus. Donc, cette introduction que j'avais faite, c'était une manière de présenter comme un hall de gare, si vous voulez. Mais comme je disais, vous savez que je disais qu'un hall de gare dans lequel, surtout, on ne peut pas stationner. Mais vous me direz que le propre même d'un hall de gare, c'est qu'on ne stationne pas. Et pourtant, c'est une station, comme dit l'espagnol, n'est-ce pas ? Ou en l'anglais aussi, n'est-ce pas ? Station. Hein ? Mais justement, ce qui caractérise la salle des pas perdus, n'est-ce pas ? Dans une gare, n'est-ce pas ? C'est que il y a une infinité de pas dans tous les sens. Ça ne s'arrête jamais. N'est-ce pas ? Et si vous voulez, le hall de gare a une mobilité, une agilité, une une agitation, n'est-ce pas, qui est très différente du départ des lignes des trains. Je veux dire par là que, ontologiquement, si vous voulez, un hall de gare n'a pas le même signe, n'est-ce pas, que le train. Car un train, ça vient de quelque part et ça va quelque part. Et vous savez que ça peut aller à l'horreur, le train. Hein ? Et quand on parle du train de la vie, quand on parle du train de l'histoire, il faut faire très très attention, n'est-ce pas ? Il faut se méfier de ce type de véhicule collectif, n'est-ce pas ? Qui est censé aller droit, n'est-ce pas ? Et donc, quand je parle de salle des pas perdus, précisément, je parle, n'est-ce pas, ce que j'ai expliqué un peu longuement à vos camarades, je parle de lignes, parce que les pas tracent des lignes, mais des lignes brisées, des lignes diverses et brisées, des lignes interrompues, multiples, et des lignes qui n'en finissent pas de se croiser. Et en ce sens, elles sont très loin des lignes de chemin de fer. N'est-ce pas ? Elles se croisent, elles vont dans tous les sens, elles appartiennent à des quantités de sujets, des sujets trajets, comme je dis, hein, un sujet qui se définit par son transport, n'est-ce pas ? Et je suis très content de ce jeu de langage, n'est-ce pas ? Essayer de penser l'homme comme trajet et non plus comme sujet. Vous savez que sujet, ça veut dire ce qui est dessous, n'est-ce pas ? Ce qui est jeté dessous. Alors que le trajet, c'est ce qui est jeté trans, c'est-à-dire à travers, sur le côté. Pas para, en grec. N'est-ce pas ? Hein ? En oblique. Et on pourrait dire, si vous voulez, que dans la salle des pas perdus, et dans cette page des pas perdus, il n'y a pas de ligne droite. Il n'y a que des lignes obliques qui se rencontrent. Pour anticiper ce que j'aurai l'occasion de dire à propos, pour vous frapper un peu, si vous voulez, à propos de la mélancolie de Dürer, puisque, comme je vous l'ai expliqué, j'introduirai le personnage de Quasimodo dans Notre-Dame de Paris par la gravure de Dürer, qui est son inspiration fondamentale, entre guillemets, fondamentale, entre guillemets. Eh bien, si vous voulez, vous savez que dans la gravure de Dürer, il y a une chose très étonnante, et qui va être justement l'une des inspirations de Victor Hugo, que les gens ne savent pas. Hein. Je vous signale que tout ça est absolument inédit du point de vue de l'explication. C'est pas, jamais Hugo ne cite, bien évidemment, la Mélancolia dans Notre-Dame de Paris. Il cite Rembrandt, mais il ne cite pas Dürer, alors qu'il le cite dans des tas de poèmes. N'est-ce pas ? Eh bien, vous avez ce bloc, le fameux bloc de pierre. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ce bloc de pierre ? Et j'expliquerai ensuite. C'est tout simplement un bloc d'oblique. C'est ce que j'appelle un bloc d'oblique. C'est-à-dire, c'est un bloc, justement, sur lequel il n'y a pas d'angle droit. Surtout pas. Il ne faut pas qu'il y ait d'angle droit. Eh bien, disons que ce bloc d'oblique, hein, qui fascinera aussi Giacometti, hein, vous savez qu'il y a un très beau livre de Didier Huberman qui s'appelle Le Cube, sur le cube de Giacometti. Et l'inspiration de Giacometti, c'est cette fameuse gravure de Dürer, n'est-ce pas ? Eh bien, ce cube, n'est-ce pas ? En un certain sens, il ne peut pas tenir debout. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas ? Il ne peut pas être vertical, car il n'a aucun angle droit, n'est-ce pas ? Et donc, il est forcément bancal. Il boite. Il est le boitement en pierre. Ce qui est un paradoxe, puisque, comme on le verra, au travers des exemples que j'ai donnés, la plupart des exemples de pas que nous étudierons sont, et il faut s'interroger pourquoi, sont des boitements. N'est-ce pas ? La plupart des exemples, comment dirais-je, exemplaires, n'est-ce pas ? Des exemples qui font vraiment, non pas modèle, hein, mais exemplaires au sens véritablement qu'ils sont uniques, qu'ils sont forts, qu'ils sont, si vous voulez, qu'ils sont signifiants, sursignifiants. Eh bien, je prends ces exemples dont on parlera, n'est-ce pas ? Œdipe. On n'imagine pas et on néglige totalement, et pourtant Dieu sait s'il y a des commentaires sur Œdipe. On néglige totalement, j'ai toujours été très étonné dans ma longue carrière universitaire de philosophe, que aussi bien chez les psychanalystes, je ne dis pas Freud, mais chez les psychanalystes, que chez les historiens de la Grèce, les historiens de la culture grecque, que chez les philosophes, n'est-ce pas ? Les philosophes les plus pointus, les plus rigoureux, n'est-ce pas ? Je pense ici à Lacoulabarthe, par exemple, qui fait un article sur la figure d'Œdipe, n'est-ce pas ? Dans l'Imitation des modernes, un article très intéressant, mais précisément un article trop influencé par Heidegger, qui fait de Œdipe une gestalt, ce qui est une aberration. Car Œdipe, on le verra, c'est un boiteux. Et c'est un marcheur. C'est, par excellence, l'homme du pas. C'est pas, j'y reviendrai. C'est certainement dans Œdipe que la tragédie grecque nous a donné admirablement non pas une figure, mais une esquisse, une trace, au sens où Derrida parle de trace. Vous savez, ce que, confusément, j'essaie de faire, c'est de transposer la réflexion de Derrida sur la trace et sur la différence, avec un A, dans l'étude du pas. Faire que la différence soit une différence de pas, la différence du pas. La différence avec un A, et j'insiste bien sur le A, hein, le A majuscule. Hein. Retrouver le A dans la différence du pas. N'est-ce pas ? J'y reviendrai à propos de Platon, mais j'y reviendrai aussi à propos de Proust, n'est-ce pas ? Car c'est véritablement très, très marqué. N'est-ce pas ? Eh bien, les exemples, donc l'exemple d'Œdipe. Œdipe est un homme du pas. Et il faut essayer d'interpréter la vie d'Œdipe, la tragédie d'Œdipe roi, est inséparable de la tragédie d'Œdipe à Colone. On oublie toujours. N'est-ce pas ? On parle d'Œdipe roi, on parle très peu d'Œdipe à Colone. Ou quand on en parle, comme deux grands universitaires très brillants, Badiou et Rudinesco, dans un petit livre, peut-être que vous avez lu ce petit livre, sur Lacan. Très curieusement, Badiou et Rudinesco, qui sont quand même, comme on dit, comme on dirait Derrida à propos des pointures, n'est-ce pas ? Eh bien, il se trouve que ces pointures, quand elles citent Œdipe à Colone, ne mettent deux zen à Colone. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas lu Œdipe à Colone. Car Œdipe à Colone, c'est très intéressant pour notre sujet, n'est-ce pas ? Colone, c'est une banlieue d'Athènes, hein, c'est comme, si vous voulez, Saint-Denis, n'est-ce pas ? Bon, Colone, c'est une banlieue d'Athènes, et précisément, dans Œdipe à Colone, il n'y a pas de colonne, et Œdipe n'est pas une colonne, c'est pour ça que ça m'énerve, cette faute. C'est pas grave, si vous voulez. Mais c'est grave à cause, si vous voulez, de cette image que l'on aurait d'Œdipe comme une sorte de colonne tutélaire, n'est-ce pas ? Une gestalt qui signifierait une vérité installée quelque part. Car vous savez qu'Œdipe, entre autres choses, ça veut dire savoir. Savoir du pied. Je renvoie là à Vernon, à, n'est-ce pas, tous les historiens, tous ces grands historiens qui sont occupés des tragédies, n'est-ce pas, grecques. C'est le savoir du pied. Ça veut dire, si vous voulez, le mot veut dire enflé, mais ça veut dire aussi l'étymologie, vous savez, c'est flottant, c'est oida qui veut dire savoir, n'est-ce pas ? Et pouce, oedipus, n'est-ce pas ? C'est soit pied enflé, soit pied savant, ou savoir du pied, savoir du pied. Mais quel pied ? Quel pied ? C'est surtout pas le piètement, justement. Ce n'est surtout pas le pied de la station debout. C'est le pied qui marche. C'est pas ? C'est le pied qui marche et le pied qui s'égare. C'est le pied nomade. C'est le pied du trajet. N'est-ce pas ? Et Œdipe est un trajet. On le verra plus tard. Hein. Bon. Alors, voilà l'introduction que je voulais faire, n'est-ce pas ? Donc, je vous ai résumé un peu ce que j'avais fait la semaine dernière, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, cette espèce de description à partir de citations, de récits, d'excitation, de détails. Et j'avais cité cette fameuse formule de Stendhal que cite Nietzsche. C'est pas Nietzsche, passionner les détails. C'est pas une formule que Nietzsche a trouvée dans Le Voyage en Italie, je crois. C'est pas Et donc, tous ces petits détails de pas, la plupart du temps, je le disais, c'est pas, sont des pas boiteux. Alors, j'ai cité Œdipe, c'est pas je pourrais citer aussi bien Achille, n'est-ce pas, qui à la fois a les pieds légers, mais a un drame au pied, il en meurt, vous savez, puisque Thétis, sa mère, a oublié de plonger son talon dans le Styx pour le rendre immortel. Pas mais vous avez, alors, en Grèce, vous avez des quantités de boiteux, et particulièrement, vous avez Héphaïstos, et je renvoie ici au magnifique livre de Détienne Evernand sur la métisse des Grecs. Héphaïstos est l'un des exemples par excellence de la technique grecque. Héphaïstos le boiteux, n'est-ce pas, est en fait l'un des modèles, entre guillemets, n'est-ce pas, des techniciens grecs, n'est-ce pas, l'une des figures divines qui renvoie à la technique en tant que la technique, c'est grec. Elle utilise les pinces, elle utilise le détour, n'est-ce pas ? Or, qu'est-ce que c'est que les jambes arquées et le boitement d'Héphaïstos ? C'est précisément ce qui renvoie à l'outil, n'est-ce pas ? Je vous renvoie au très beau livre de Détienne Evernand, n'est-ce pas ? Sur Héphaïstos comme figure même de l'outil, n'est-ce pas ? Divinisé, c'est l'outil divinisé, n'est-ce pas ? Et c'est avec son boitement, si vous voulez, il dit le mécanique, n'est-ce pas ? Il dit ce qui n'est pas droit, ce qui est non pas simplement médiatisé, mais ce qui se complique avec des organes prothétiques, des organes qui sont artificiels, n'est-ce pas ? C'est ça la technique, et c'est ça la machine, n'est-ce pas ? Bon. Autre exemple de boiteux, eh bien vous avez, alors là j'en parlerai un petit peu, n'est-ce pas, vous avez Jacques le Fataliste, n'est-ce pas, et je voudrais vous donner simplement deux ou trois références chez Diderot qui permettent, je pense, de mieux comprendre ce qui se passe dans Jacques le Fataliste. C'est pas évident, n'est-ce pas, et en même temps c'est très très simple, n'est-ce pas, car ce n'est pas un hasard si Diderot présente Jacques, vous savez, Jacques est un valet, un pauvre type, n'est-ce pas, qui traîne de ci, de là, n'est-ce pas, qui a des aventures, n'est-ce pas, qui raconte des tas d'histoires, et dans des histoires dans lesquelles des hommes racontent des histoires, n'est-ce pas. C'est ce qu'on appelle, en termes savants, la diégèse, c'est le méta-diégétique. La diégèse, c'est le récit, n'est-ce pas ? La diégèse simple, c'est lorsque le récit est fait par un auteur qui parle, Platon, par exemple, parle et raconte des choses, n'est-ce pas ? Et pour Platon, c'est ce qu'il y a de moins dangereux, n'est-ce pas ? On a un auteur qui raconte une histoire et il maîtrise l'histoire. Ce que Platon va refuser, c'est la diégèse, la métadiégèse, la diégèse pas simple, déjà, la diégèse compliquée, n'est-ce pas, théâtrale ou romanesque, dans laquelle il n'y a plus d'auteur, n'est-ce pas, mais il y a tout simplement des personnages qui parlent en leur nom propre. Alors, dans ce cas-là, l'auteur se dissimule derrière les personnages. Alors, c'est la pièce de théâtre ou c'est le roman, n'est-ce pas ? Il n'y a plus d'auteur. Et alors, pour Platon, c'est vraiment très dangereux, ça. Parce qu'on ne sait plus qui on est, n'est-ce pas ? Et on ne sait plus où est le sujet. On ne sait plus qui parle, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, on est dans la mimésie généralisée et on est dans le mensonge généralisé. Et c'est le monde de la littérature. C'est pas ? Et c'est le monde de la vérité plurielle. Et disons les choses, parce qu'habituellement, on oublie toujours les conséquences, n'est-ce pas ? Bah, c'est la démocratie. Et c'est dit en toutes lettres dans la République de Platon. N'est-ce pas ? Tout ça, dans le livre 10, c'est les sophistes et c'est la démocratie. C'est-à-dire, c'est la vérité plurielle. C'est le manteau qui fascine les enfants et les femmes, hein, et un manteau certainement de femmes, hein, qui est de toutes les couleurs, poikilon, dit Platon, n'est-ce pas ? Et ça, c'est la démocratie. C'est-à-dire, c'est tout à fait, c'est le danger par excellence, n'est-ce pas ? C'est le mal par excellence, n'est-ce pas ? C'est la décadence par excellence, c'est ce contre quoi est installé la République. Tu vois ? C'est la boue, c'est, si vous voulez, c'est pas la terre dans ce cas-là, n'est-ce pas ? C'est véritablement, c'est une espèce de... C'est l'eau boueuse du Pirée, n'est-ce pas ? Qui entoure l'acropole, n'est-ce pas ? Par où cette mer équivoque, par où viennent, bah, disons, on le sait bien, les émigrés, les barbares, n'est-ce pas ? Et nous sommes toujours... Nous sommes toujours, n'est-ce pas, dans ce monde grec, n'est-ce pas, avec des lieux ou des gens qui veulent, des individus qui veulent installer des lieux, n'est-ce pas, fermés, et qui présupposent la station debout, qui présupposent l'installation verticale de l'ordre social, et puis vous avez ce qui s'oppose à ça, c'est pas, c'est le désordre, c'est pas, horizontal, c'est pas, qui part dans tous les sens, l'ouverture, c'est pas, d'un côté vous avez la détermination, n'est-ce pas, et cette détermination, elle est symbolisée par Athéna. Athéna est la déesse de la détermination, c'est-à-dire du terme, c'est-à-dire de la fermeture sur soi, de la borne, n'est-ce pas ? Pourquoi Athéna ? Eh bien, parce qu'Athéna est une guerrière, et elle est la guerrière avec son égide, vous savez, avec son bouclier et sa lance. N'est-ce pas ? Vous retrouvez ces statues d'Athéna en très grand nombre dans les châteaux et dans les musées du XIXe siècle, à l'époque de Napoléon III, car c'est le symbole par excellence de la République bourgeoise. Voilà. Vous savez qu'au XIXe siècle, Victor Cousin traduit Platon, et Platon est véritablement le modèle de la République bourgeoise. Hein ? Eh bien, Athéna représente la République, c'est pas ? Et cette image de la République est terrible, n'est-ce pas ? C'est l'image de la République en tant qu'elle se garde, n'est-ce pas ? Et cette idée de la vérité politique qui se garde, C'est aussi l'idée de la vérité ontologique ou de la vérité esthétique qui se garde, et ça se retrouve textuellement chez Heidegger, qui joue sur le mot Wahrheit. Qu'est-ce que c'est que Wahrheit ? C'est la garde de la vérité. Hein ? Waren, n'est-ce pas ? War, en allemand, ça veut dire garder. N'est-ce pas ? Et donc, Wahrheit, qui veut dire vérité, n'est-ce pas ? C'est ce qui se garde et ce qu'on doit garder. N'est-ce pas ? Et à la fin de Ursprung des Kunstwerks, Heidegger a un très grand développement sur la nécessité d'avoir des gardiens de l'art. C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? C'est extraordinaire, cette espèce de, si vous voulez, d'exposition cynique d'une philosophie de l'installation, de la conservation, de la protection, qui est tout simplement une philosophie raciste, n'est-ce pas ? Mais qui ne dit pas son nom, n'est-ce pas ? Ce qu'il y a d'assez terrible chez Heidegger, si vous voulez, c'est que Heidegger prolonge, en fait, une constante souterraine de tout le monde occidental, n'est-ce pas ? Ça date de Platon, n'est-ce pas ? Et c'est la figure grecque, hellénique, si vous voulez, qu'on retrouve dans la plupart des théories politiques d'extrême droite, n'est-ce pas ? Et cette espèce de fascination pour la Grèce qu'on trouve dans la sculpture à l'époque des nazis, n'est-ce pas ? Et à l'époque de Mussolini, n'est-ce pas ? Cette statuaire, ce goût du monumental, si vous voulez. Hein ? Pardon ? C'est ça, l'esthétisation du politique, de la fiction du politique, l'esthétisation du politique. Hein. Et je crois que ça, c'est lié, si vous voulez, à cette vérité, à cette conception installée, n'est-ce pas, de la vérité, n'est-ce pas, avec ses gardiens. N'est-ce pas. Et le mot gardien, vous savez très bien que c'est un mot de Platon, n'est-ce pas, puisque les archontes, n'est-ce pas, qui détiennent le principe arché, n'est-ce pas, qui régit la société, n'est-ce pas ? Le principe 1 qui régit la société, c'est le principe de l'ordre vertical. C'est-à-dire, c'est le principe qui commande, qui commence, arché, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire commander, commencer, archein, ça veut dire commander. Archeistai, ça veut dire être commandé. Arché, donc, c'est ce qui commande au sens politique, au sens anthropologique, si vous voulez, mais c'est aussi ce qui commence au sens ontologique. C'est le principe. C'est le bien. Et le système platonicien peut être figuré, comme dirait Heidegger, par un A majuscule. Hein, moi, je faisais ça beaucoup, n'est-ce pas, quand j'enseignais, quand j'expliquais des textes de Platon, n'est-ce pas ? Le A majuscule, c'est très intéressant parce que d'abord, c'est le A d'Athéna, c'est le A d'Agathon, le bien, chez Platon, n'est-ce pas ? C'est le A d'Arete, qui veut dire la vertu, n'est-ce pas ? C'est le A qui la première lettre de l'alphabet, n'est-ce pas ? Et c'est véritablement le A qui dessine en quelque sorte la pyramide politique. Chez Platon, vous avez en haut, et cette pyramide politique, c'est pas, elle est à la fois architecturale, géométrique et architecturale, et anthropologique. Puisque vous savez que Platon établit une analogie entre les petites lettres et les grandes lettres, la société, la police, P-O-L-I-S, hein, la cité s'écrit en grandes lettres, et l'individu ou le citoyen s'écrit en petites lettres. Et dans cette structure analogique, n'est-ce pas, si on glisse le A, ça marche très bien, n'est-ce pas, vous avez le petit A qui est le petit individu, le petit citoyen, n'est-ce pas, et puis vous avez le grand A qui est l'acropole, la cité d'Athéna. N'est-ce pas ? Avec, et justement, à Athènes, la cité se présente comme une hauteur. N'est-ce pas ? Vous avez le Pirée, vous avez les longs murs, et vous avez en haut l'Acropole. Là, vous avez l'astu, c'est-à-dire la ville, entre, et puis en haut, vous avez l'acropole. Là. Eh bien, l'individu, ou plutôt le citoyen chez Platon, n'est-ce pas, a un corps, n'est-ce pas, qui est composé d'une tête, d'un cœur et d'un ventre. N'est-ce pas? Et à cette tête, ce cœur et ce ventre correspondent trois vertus, n'est-ce pas? La vertu du nous, de la pensée, la vertu du thumos, du courage, et la vertu de l'épithymeticon, c'est-à-dire de la maîtrise des désirs. Hein? Le ventre, la vertu, c'est l'inhibition des désirs, c'est ça, la maîtrise des désirs. Le thumos, le cœur, c'est l'exécutant de l'autorité du nous, c'est-à-dire de l'unité du nous, sur la multiplicité incohérente, le chaos du ventre. N'est-ce pas? C'est-à-dire, oi poloi, la multitude. La multitude grouillante des individus, des travailleurs, des ouvriers, n'est-ce pas? Qui est littéralement organisée par l'autorité des soldats, n'est-ce pas? Sous la direction des archontes, c'est-à-dire des philosophes, rois, n'est-ce pas, Basileus, Phylax, les gardiens. Les gardiens, Phylakès, n'est-ce pas, ce sont aussi bien les archontes, les archontes, n'est-ce pas, et ce sont les rois, Basileis. Eh bien, cette structure platonicienne, n'est-ce pas, elle installe véritablement un système, et ce système, n'est-ce pas, eh bien, il implique une stabilité qui se lie particulièrement, si vous voulez, je vais assez vite, n'est-ce pas, particulièrement dans certains détails de la République. Alors, d'abord, la mise en scène de la République. La mise en scène de la République, si vous voulez, vous savez que Socrate parle avec plusieurs personnages, n'est-ce pas, Trasimaque, entre autres, bon, dont les noms du reste renvoient à la guerre, n'est-ce pas? Il y a Trasimaque, puis il y a comment s'appelle l'autre? Je ne me souviens plus. Il y en a au moins deux qui ressemblent à, qui ont des noms de guerriers, n'est-ce pas? Et c'est pas étonnant si justement on parle d'une cité qui se défend et qui se définit essentiellement par la défense vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire du dehors. C'est, si vous voulez, l'intérieur qui se défend contre l'extérieur. Et vous verrez les petits détails qui sont très significatifs dans la République. Eh bien, d'abord, la mise en scène, eh bien, Socrate va parler de cette cité idéale avec ses disciples. Dans quelles circonstances? En remontant. Il marche, apparemment, il marche. Mais précisément, sa marche, c'est une remontée. C'est pas, c'est, ça n'est pas du tout un pas horizontal, c'est une montée vers l'acropole. Il part du Pirée pour aller vers l'acropole. C'est-à-dire, précisément, il installe dans l'espace de son discours, n'est-ce pas, il installe la verticalité. N'est-ce pas. Et il y a un détail qui complète cette installation et qui est en affinité avec ce que représente Athéna. Eh bien, c'est que cette remontée a lieu un jour où il y a une fête au flambeau. Et une fête au flambeau où ce ne sont pas des personnages à pied, précisément, qui se passent les flambeaux, mais des personnages à cheval. On se passe d'un cavalier à l'autre, des flambeaux, n'est-ce pas? Et c'est ce jour de fête qu'a choisi Platon pour installer Socrate dans la cité et le faire remonter vers l'acropole. N'est-ce pas? Alors, quel est l'intérêt de cette apparition du cheval? Je l'ai dit la semaine dernière, Athéna est la déesse de la maîtrise des chevaux, la déesse de l'équitation, la déesse de l'art de l'équitation. Athéna, c'est elle qui a inventé le mors pour dompter le cheval. Et vous me direz, mais donc c'est la déesse de la guerre, mais c'est aussi la déesse de la vérité, hein, Athéna. Hein, c'est la déesse de la sagesse. C'est la déesse de la sagesse et de la vérité. Or, elle est aussi la déesse de la maîtrise des chevaux. Elle a inventé ce fameux mors qui permet de dompter le cheval. Or, que représente le cheval? Le cheval représente précisément la folie, représente les passions, représente tout simplement le poikilon du ventre. N'est-ce pas? C'est-à-dire, si vous voulez, le désordre du oipoloi, c'est pas Gorgos. Je renvoie au texte de d'Étienne et Vernant sur la métis, où précisément ils analysent, n'est-ce pas, tous les deux, cette nature tout à fait particulière d'Athéna comme, si vous voulez, comme technicienne. Comme technicienne dans le monde grec, la technique de la maîtrise des chevaux, qui est une maîtrise bien évidemment politique. C'est-à-dire que le cavalier, comme dans toute la tradition occidentale, n'est-ce pas, le cavalier est l'exemple même de l'autorité politique. D'où l'importance des statues équestres, n'est-ce pas, dans tous les pays où il y a royauté, n'est-ce pas? Toutes ces statues. Et je signale en passant que c'est au pied ou à côté de la statue d'un roi à cheval que Nietzsche se jette au cou d'un cheval de fiacre. C'est quand même quelque chose, un petit détail intéressant, n'est-ce pas? C'est en bas de la statue de Victor Emmanuel, n'est-ce pas, que Nietzsche va se jeter au cou d'un cheval de fiacre tombé à terre et battu par son maître.
Turin.
Pardon?
À Turin.
À Turin. Et c'est très intéressant le contraste entre la statue équestre, n'est-ce pas, et Nietzsche. N'est-ce pas, on voit très. Moi, je pense qu'il y a là une hyperlucidité de Nietzsche, c'est pas, qui va lui aussi faire une performance, c'est pas, et qui va, lors de ses dernières heures de lucidité, va véritablement résumer dans un geste extraordinaire, c'est pas, ce combat contre l'autorité, contre la violence, contre la barbarie, contre, etc., etc., etc. Alors, donc je disais, mais le cheval, donc l'importance course au flambeau à cheval, n'est-ce pas, avec la signification politique de ce cheval. Mais il y a aussi, alors là, pour définir la cité de Platon, vous avez donc Athéna avec sa nature défensive, n'est-ce pas? Elle garde la vérité, n'est-ce pas? Elle préserve la vérité, une vérité qui est donc close, qui est déterminée, qui est enfermée. Et un autre détail de cette clôture, eh bien, c'est que pour définir le phylax, le gardien, n'est-ce pas? Vous savez, à un moment, Socrate dit, avec quel homme, n'est-ce pas, et avec quel enfant va-t-on faire le phylax, va-t-on éduquer le phylax, bien, il nous dit, il faut qu'il soit de bonne nature, il faut qu'il soit de bonne nature, n'est-ce pas ? C'est-à-dire de bonne race, hein, bonne race, hein, le mot grec est très fort, c'est génos, hein. Il faut qu'il soit de bonne race, comme un chien de bonne race. Et alors, attention, un chien de bonne race. Et il joue sur le langage phulax, qui veut dire gardien, et skulax, qui veut dire jeune chien. Le phulax doit être un skulax. Et il ajoute, qu'est-ce que c'est qu'un chien de bonne race ? Eh bien, c'est un chien qui sait distinguer entre les amis et les ennemis. C'est-à-dire, c'est un chien de garde, comme dirait Sartre, comme dirait Nizan. N'est-ce pas ? C'est un chien de garde. Donc, vous voyez les petits détails incroyables. Et alors, dans la République, c'est à 375A, je crois. Hein, hein, le gardien doit être un chien de garde. La question se pose, et je ne pense pas que les historiens aient répondu, aient pu répondre, de savoir si Diogène a inventé sa performance à partir pour faire la nique, ça, à Platon. Vous savez que Diogène passe son temps à se moquer de Platon. Pas il vit à la même époque, hein, et à se moquer de l'Académie. Pas il est très possible, pas, que ça se passe ainsi. Pas ça ne m'étonnerait pas quand on pense à l'extraordinaire subtilité des jeux d'images, n'est-ce pas, de Diogène envers, en face du platonisme, n'est-ce pas. Par exemple, Diogène dit, c'est peut-être Antisthène, mais enfin c'est pareil, Antisthène, Diogène, c'est terrible, Platon passe son temps à faire l'éloge du cheval, n'est-ce pas. Et pourquoi ne fait-il pas celui de l'âne ? Très intéressant, n'est-ce pas, hein. Platon fait l'éloge du cheval, n'est-ce pas, il ne fait pas celui de l'âne, n'est-ce pas. Ce qui permet de comprendre que le cynisme grec cache des secrets extraordinaires concernant le sens de la démocratie. J'y reviendrai, j'aurai l'occasion d'y revenir. Bien. Alors, je voulais vous dire que je ne vais sans doute pas rester parce que je commence à avoir un petit peu mal au dos. Je vais certainement pas. Il est 19h42. J'irai peut-être jusqu'à 8h, mais je crois que je ne pourrai pas tenir jusqu'à. Hein, parce que mon limbago commence à me faire des siennes. Alors, je voudrais donc vous donner quelques citations de Platon qui permettent de mieux préciser cette espèce de souci de l'installation et de la verticalité de la philosophie dans particulièrement la République. Eh bien, voici d'abord une petite définition dans le livre 2 de la République, en 380. Au moment où il s'agit... Au moment où il s'agit de parler du rapport du philosophe avec le poète et le jeu de rôle du poète, donc de la mimésis, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, de ce risque terrible de la multitude des sujets, n'est-ce pas, qui cache l'auteur, c'est-à-dire qui parlent en leur nom propre, mais en multipliant les figures, en multipliant les aspects de leur apparition. Hein. Eh bien, voici ce que dit Platon. Passons à la deuxième loi, c'est-à-dire il s'agit de dénoncer les descriptions que l'on fait des dieux, n'est-ce pas, qui sont mauvaises, et particulièrement, bien évidemment, ce sont les descriptions des dieux que fait Homère. Eh bien, Platon dit, Homère, véritablement, en substance, est totalement immoral. Il présente les dieux faisant l'amour devant les uns les autres, criant, riant, n'est-ce pas ? Et les dieux ne sont pas ce qu'ils sont. Alors que Dieu, Tothéon, Othéos, n'est-ce pas ? Dieu n'est pas un magicien. Crois-tu que Dieu soit un magicien capable de nous tendre des pièges et d'apparaître sous des formes diverses, tantôt réellement présent et changeant son image en une foule de figures différentes, tantôt n'offrant de lui-même que des fantômes trompeurs et sans réalité. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas être plusieurs. Dieu ne peut pas être apparence. Et il ajoute, n'est-ce pas plutôt un être simple, le moins capable de sortir de la forme qui lui est propre. Dieu n'est-il pas plutôt un être simple, le moins capable de sortir de la forme qui lui est propre ? Alors, le mot grec pour simple, c'est aplos, aplous, c'est pas simple, c'est-à-dire il est ce qu'il est, Dieu est ce qu'il est, et il ne sort pas de la forme qui lui est propre, c'est le mot très concret, ekbainai, le verbe très concret, ekbainai, c'est-à-dire marcher hors. Baino, ça veut dire marcher. C'est-à-dire Dieu ne marche pas. Dieu est ce qu'il est. Donc Dieu est fixe, si vous voulez. N'est-ce pas ? Dieu ne sort pas de lui-même par le pas. Alors qu'est-ce que c'est que marcher ? C'est forcément, on le verra, n'est-ce pas ? Sortir de soi, et c'est ce qu'il y a de mystérieux et de curieux dans la marche, n'est-ce pas ? Quel drôle de sujet, n'est-ce pas ? Que ce sujet qui n'en finit pas de se jeter hors de lui-même, de se diviser en lui-même, n'est-ce pas ? Ce corps qui est vertical, n'est-ce pas ? Qui se tient verticalement et qui se fend en deux, n'est-ce pas ? Et selon une fente, et ça c'est intéressant, et on verra la conséquence que cela a pour Diderot, selon une fente qui est aussi la fente de la génération. C'est entre les jambes que naît l'enfant, que sort l'enfant. Et la naissance, n'est-ce pas, est inséparable du pas, en un sens, dans tous les sens. Il faut que l'enfant agite les pieds pour qu'il manifeste sa vie. C'est ça, le signe même de la vie de l'enfant. C'est donc le signe même de sa vitalité et, dira Diderot, de son âme. Hein ? Donc, voici ce texte. Ce texte-là est tout à fait étonnant, n'est-ce pas ? Dieu ne peut pas sortir de lui-même, il ne peut pas marcher hors de lui-même. Bon. Un peu plus loin, en 388, Socrate dira, il ne faut pas que les gardiens se mettent à rire, parce que cela produit, là encore, un grand bouleversement dans l'âme. Métabolé, n'est-ce pas ? Un grand changement dans l'âme. C'est-à-dire, l'âme ne doit pas changer, elle doit être ce qu'elle est, parce que le propre de l'âme, c'est d'être une. Connais-toi toi-même. Qu'est-ce que c'est que se connaître soi-même ? C'est la vieille tradition occidentale, jusqu'à Descartes, n'est-ce pas ? Se connaître soi-même, c'est se connaître comme unité. Comme unité de pensée singulière qui est analogique à l'unité ontologique absolue de l'arché. Je suis, dans ma réflexion avec moi-même, n'est-ce pas ? L'image, la copie exacte, de cette auto-réflexivité spéculative de l'absolu. Bon. Alors, voici donc ces deux citations. Là, Alors voici maintenant une citation encore plus précise, n'est-ce pas, qui se trouve là dans le livre 7, n'est-ce pas, après le passage sur la caverne, n'est-ce pas. Et il s'agit de l'éducation des chiens, c'est-à-dire des fulax, c'est-à-dire des gardiens, des chiens de bonne race, n'est-ce pas. Alors voici ce que dit Socrate. Si un jour tu avais effectivement à élever ces enfants que tu élèves et formes en imagination, c'est-à-dire ces enfants qui deviendront des gardiens, n'est-ce pas, tu ne souffrirais pas qu'étrangers à la raison, comme des lignes irrationnelles, ils fussent les maîtres de l'État et les arbitres des suprêmes décisions. Osper grammas analogus, comme des lignes irrationnelles, analogus. Or, qu'est-ce que c'est que ces lignes irrationnelles? Eh bien, c'est très simple, et ça donne le titre de mon séminaire, c'est la diagonale. Car pour les Grecs, c'est pas, la diagonale n'est pas un... On ne peut pas calculer la diagonale en chiffres entiers. N'est-ce pas ? C'est donc un irrationnel. C'est donc, si vous voulez... Et alors là, c'est très intéressant. La diagonale est... Théorème de Pythagore, n'est-ce pas ? Quand on a affaire à un triangle rectangle, et quand ce triangle rectangle est un carré, hein, est un à les deux côtés égaux. N'est-ce pas ? C'est vraiment la figure la plus, comment dirais-je, la plus fixe, n'est-ce pas ? Vous avez l'angle à la pointe, vous avez l'angle droit, et vous avez la diagonale qui relie les deux angles aigus, qui ne sont pas droits, qui sont des, en quelque sorte, obliques, si vous voulez. C'est pas ? C'est-à-dire que les deux côtés, pas ? Les deux côtés entrent avec le troisième côté selon une oblique. C'est pas ? Et non seulement ils entrent selon une oblique, mais l'oblique est irrationnelle. C'est-à-dire, on ne peut pas la calculer, c'est pas ? On ne peut pas obtenir un chiffre entier pour la désigner. Ça veut donc dire que la diagonale, n'est-ce pas, est véritablement quelque chose de dangereux, n'est-ce pas ? C'est quelque chose d'inquiétant. Et c'est quelque chose qu'il faut essayer de rationaliser, si vous voulez. Et alors, c'est là que le fameux petit épisode du petit esclave dans le tête-tête est intéressant. Car vous savez que Socrate, dans le Ménon, excusez-moi, pas dans le tête-tête, dans le Ménon, je commence à être un peu sonné là. Dans le Ménon, vous savez que Socrate veut donner une preuve de l'anamnésie, c'est-à-dire du souvenir. De la bonne mémoire, du souvenir des idées. Et il va dire, n'est-ce pas, tu vas voir, ce petit esclave va résoudre un problème de géométrie sans rien savoir à la géométrie. Alors, ce qui est important, c'est que ce soit un problème de géométrie. Justement, qu'est-ce que c'est que la géométrie, n'est-ce pas ? La géométrie, c'est pas l'arpentage. N'est-ce pas ? Arpenter, c'est mesurer une distance, n'est-ce pas ? Mais hors des figures, si vous voulez. C'est simplement mesurer une distance ouverte. C'est ça, arpenter. Hein ? Arpenter, du reste, on peut arpenter sans mesurer, n'est-ce pas ? Il faudrait s'intéresser, du reste, sur ce plan, à la signification de l'arpenteur dans le château de Kafka. Hein, mais bon, faudrait un autre moment. Mais donc, le géomètre, c'est celui qui fait des figures, qui construit des figures, et qui est architecte. c'est-à-dire qu'il ferme des figures, n'est-ce pas ? Il ferme des figures, et des figures qui tiennent debout, n'est-ce pas ? La métaphore pour la politique, je renvoie ici aux politiques, la métaphore pour la politique, c'est toujours l'architecture chez Platon, n'est-ce pas ? Car il s'agit de fermer, n'est-ce pas, des figures. Fermer les figures de telle façon, par exemple, que la couleur ne coule pas, n'est-ce pas ? Quand une figure est colorée, n'est-ce pas ? De façon, n'est-ce pas, que la chose désignée, la forme désignée, soit déterminée, n'est-ce pas, et ne glisse pas ailleurs, n'est-ce pas. Il ne faut pas qu'il y ait de ligne de fuite, n'est-ce pas. Et donc, quand on pose, alors quelle question Socrate va-t-il poser au petit esclave? Le petit esclave en grec, ça se dit païs, c'est-à-dire enfant, vous voyez, non indéterminé, n'est-ce pas. Eh bien, il va lui demander comment faire pour obtenir un carré de surface double d'un carré donné. Hein ? Vous voyez, donc c'est un problème de géométrie. Comment faire pour obtenir un carré de surface double d'un carré donné ? Eh bien, le petit esclave réussit à comprendre qu'il faut construire le carré double sur la diagonale du premier carré. Alors, ça n'a l'air de rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de la stratégie intellectuelle de Socrate ? Eh bien, il s'agit tout simplement, si vous me permettez, d'encarter la diagonale. C'est-à-dire, la diagonale irrationnelle dans le premier triangle, n'est-ce pas ? Dans le premier carré, la diagonale irrationnelle dans le premier carré devient rationnelle dans le deuxième, puisque on peut très bien considérer que le côté est de, par exemple, de chiffre 1, tu vois, puisqu'on a un carré avec quatre côtés, hein, on peut former un côté, n'est-ce pas, d'un carré sur cette diagonale. Donc la diagonale ne fuit pas. Elle est déterminée. Vous voyez donc la ruse là qui vise à encarter, à enfermer, à installer géométriquement la vérité. Alors, donc je vous citais ce texte, n'est-ce pas ? Il ne faut surtout pas, voilà, n'est-ce pas, que les enfants, n'est-ce pas, étrangers à la raison, comme des lignes irrationnelles, qu'ils, n'est-ce pas, que ces enfants, étrangers à la raison comme des lignes irrationnelles, soient les maîtres de l'État et les arbitres des suprêmes décisions. Un peu plus loin, deux pages plus loin, on va voir Socrate dire les choses très clairement, n'est-ce pas ? La philosophie, à notre époque, a des adeptes indignes d'elle. Elle ne devrait être abordée que par des esprits bien nés et non par des esprits bâtards. N'est-ce pas ? Gnesius, c'est-à-dire bien né, et notus, bâtard, n'est-ce pas ? C'est-à-dire celui dont on ne connaît pas les parents. Et il ajoute : Comment l'entends-tu ? Demande-t-il. D'abord, répondis-je, il ne faut pas être boiteux au travail. N'est-ce pas ? Quand on veut aborder la philosophie, je veux dire laborieux pour une moitié de chose, paresseux pour l'autre, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, vous voyez, déséquilibré. Et il ajoute, le boiteux, n'est-ce pas ? Il n'a aucun goût pour l'étude, la conversation, la recherche, il a de l'aversion pour tous les travaux de cette sorte. Il est boiteux aussi quand chez lui, l'amour du travail a pris la direction contraire. N'est-ce pas ? Donc, de manière tout à fait explicite, et il va revenir, n'est-ce pas ? Donc, le mot boiteux, c'est colosse, n'est-ce pas ? Colosse, n'est-ce pas ? Boiteux. Et de même, à l'égard de la vérité, poursuivis-je, ne dirons-nous pas qu'une âme est estropiée, alors là, c'est le mot anapéron, n'est-ce pas, quand, haïssant le mensonge volontaire, et ne pouvant le souffrir sans répugnance en elle-même, et ni sans indignation dans les autres, elle admet facilement le mensonge involontaire, etc. Donc nous voyons là que nous avons, et il continue ensuite à parler de l'esprit bâtard, n'est-ce pas, l'esprit, il ne faut pas moins discerner l'esprit bâtard de l'esprit bien-né, n'est-ce pas? Et de même, il ne faut pas que les États s'en remettent aveuglément, quelle que soit celle dont ils ont affaire, à des boiteux et à des bâtards. Alors, on voit là, n'est-ce pas, que c'est très fort, c'est très puissant, et surtout, cette dénonciation, cette moralisation, n'est-ce pas, et cette exclusion des bâtards et des boiteux, il ne faut pas l'entendre simplement au sens empirique, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas de dire on ne veut pas d'hommes boiteux parmi les magistrats. Mais ça veut dire, boiteux ici, ça veut dire oblique. Ça veut dire qui ne marche pas droit, c'est-à-dire qui n'est pas selon la verticale de la vérité athénienne, selon la hiérarchie. C'est-à-dire le boiteux, c'est celui qui ne croit pas à la hiérarchie. C'est celui qui s'en va latéralement. Le boiteux, c'est pas, il utilise des angles aigus, c'est pas, et il s'en va, comme la diagonale, latéralement. C'est pas, à supposer même qu'il ait un boitement avec une jambe à angle droit. Mais ça, ça n'entre pas, si vous voulez, dans les considérations de Platon. N'est-ce pas ? Le problème du boiteux, c'est qu'il est de côté. N'est-ce pas ? C'est qu'il est en risque de chute. C'est-à-dire que le boiteux, en fait, si on réfléchit bien, n'est-ce pas ? Pourquoi tous ces boiteux ? Alors, ce boiteux qu'exclut Platon, c'est bien évidemment Héphaïstos. Par exemple, à un moment, je ne l'ai pas cité, ce texte, mais Platon... Socrate dénonce Homère qui montre les dieux en train de rire quand Héphaïstos passe en boitant sur l'Olympe. Ça veut donc dire, c'est pas simplement parce que les dieux rient, mais c'est parce qu'ils rient des boiteux. N'est-ce pas ? Et parce que Héphaïstos est boiteux. N'est-ce pas ? Et donc, ça veut dire que ce qui est mis en question par Platon, c'est, disons, il s'agit ici aussi bien de politique que d'esthétique que de morale. Il s'agit tout simplement de ce qui est oblique. Qu'est-ce qui est oblique ? Eh bien, très précisément, à l'époque de Platon, à l'époque de Sophocle, la figure de l'oblique, c'est toute la culture grecque qui précède. Apollon l'Oxias, Apollon l'oblique, qui donne des prophéties énigmatiques, et on le dit qu'il est oblique. La technique qui utilise l'oblique, c'est pas ? Mais aussi, tout simplement, la figure dont ne parle jamais Platon, Œdipe. Œdipe est par excellence la figure de l'oblique et je voudrais risquer l'hypothèse, et je terminerai par là aujourd'hui, si vous voulez, hein, si vous me permettez, je voudrais risquer l'hypothèse que dans cette exclusion implicite qui est, si vous voulez, le fait de taire, c'est encore pire comme exclusion que le fait de chasser quelqu'un en le citant. C'est pas ? On peut chasser le poète en le citant, mais on chasse Œdipe sans le citer. On ne le cite pas. Et je voudrais vous suggérer cette hypothèse. Beaucoup d'historiens, certainement, ne seraient pas d'accord, mais moi, je suis de plus en plus convaincu que la figure d'Œdipe et l'histoire d'Œdipe, c'est une histoire, tout simplement, qui met en scène l'esprit démocratique athénien. Et le savoir du pied d'Œdipe, c'est le savoir de la distance et de l'écart qu'il faut avoir avec l'autre pour former une démocratie. Je reviendrai là-dessus, n'est-ce pas? On verra que l'histoire d'Œdipe, c'est l'histoire d'un échec comme tyran, n'est-ce pas? Il se crève les yeux, il a couché avec sa mère et il a tué son père, et il va être guidé par sa fille Antigone. Et c'est Œdipe à Colone. Et il est présenté précisément comme un spectre, Eidolon. Solitaire, spectre. Et il est tenu par une canne qui est Antigone. C'est-à-dire, il accomplit sa destinée. La destinée est la question que lui a posée le sphinx. Quel est l'animal qui, le matin, marche à quatre pattes, à midi sur deux pattes, et le soir sur trois pattes? Eh bien, c'est l'homme. Et quel homme? Pas le bipède, justement, n'est-ce pas? Pas le bipède, mais le tripode, c'est-à-dire l'homme qui marche avec une canne. C'est cet homme-là qui, dans Œdipe à Colone, va être présenté, et là, si vous lisez le texte, vous verrez, de très nombreuses fois, Œdipe va dire, je vais disparaître, il ne meurt pas, il disparaît, et je vais disparaître de façon à devenir un exemple pour les Athéniens. Quel exemple? L'exemple même de cet animal 4, 2, 3, de cet animal boiteux, hein, qui est par excellence celui qui est capable de la démocratie. Pour être démocrate, il faut boiter. C'est ce qu'il faut démontrer. Et on y reviendra, n'est-ce pas? C'est un peu énigmatique, mais on verra que cela va se retrouver chez Diderot. Jacques le Fataliste, c'est du même ordre, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose, n'est-ce pas? On retrouvera ça indirectement chez Flaubert, n'est-ce pas? On retrouvera ça, bien évidemment, chez Quasimodo, n'est-ce pas? Et d'une autre manière, on retrouvera ça chez Proust. À condition, bien évidemment, de savoir que le démocratique n'est pas simplement un régime politique, mais le démocratique est véritablement une, je ne dirais pas une vision du monde, mais une vérité anthropomorphique, anthropologique, n'est-ce pas ? Le démocratique relève essentiellement du rapport entre les citoyens, et la question est de savoir quel espace est capable, est en puissance de ces rapports et de ces relations démocratiques. Eh bien, ça ne peut être qu'un espace d'oblique, un espace d'à côté, un espace de para, en grec, hein, paradoxal, n'est-ce pas ? Et les cyniques diraient, ça relève de la parésia et ça relève, n'est-ce pas, du paradoxe. N'est-ce pas, voilà. Alors, on reverra tout ça. Je présente ça de manière un petit peu énigmatique, n'est-ce pas, mais réfléchissez. Mais on aura l'occasion de revenir, si vous voulez, et les exemples que nous verrons, que nous lirons, vont aller dans le même sens. Si vous voulez, n'est-ce pas, et on verra que dans le cas de Quasimodo, c'est très frappant, n'est-ce pas ? C'est véritablement une mise en scène extraordinaire qui renvoie bien évidemment à Œdipe, n'est-ce pas ? Et qui renvoie à toute cette tradition Diderot, etc., n'est-ce pas ? Toute cette tradition Descartes. Et ça passera aussi par Kant, car on verra aussi que chez Kant, la pratique, n'est-ce pas, la raison pratique, a quelque chose à voir avec le boitement. Hein, on verra.